Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussa Opondi.
Les titres de ce journal, réédition du chef rebelle Tcheka, la société civile du Nord Kivu s'en félicite et demande qu'il soit déféré devant la justice. Élection des gouverneurs dans 11 provinces de la RDC, le dépôt des candidatures a pris fin aujourd'hui. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Kazembe refuse de démissionner et dit ne pas reconnaître le scrutin qu'organise la CENI. À suivre dans la seconde partie de cette édition, le dossier, le sport et l'invité de ce soir est Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix et les droits de l'homme, CEPADO. Bonsoir à tous. L'actualité reste dominée par la reddition du chef de guerre Thabo Ntabiri dit Tcheka, poursuivi pour crime contre l'humanité. La société civile du Nord Kivu s'en félicite. Et dans une interview à Radio Okapi, le coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix et les droits de l'homme, CEPADO, plaide pour que Tcheka réponde de ses actes devant la justice congolaise. Quand bien même il s'est volontairement rendu, le rebelle Tcheka ne devrait pas bénéficier de la protection de l'État congolais, comme c'était le cas avec Kyungu Mutanda Gédéon, estime Omar Kavota, interrogé ici par Michel Kifindangoy.
Nous nous sommes félicités de sa reddition, mais nous voudrions rappeler que Thabo Ntabiri Tcheka est visé par un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Et à cette fin, nous estimons qu'en dépit de sa reddition volontaire, il doit répondre de ses actes. Ses actes ne doivent pas rester impunis. Il a perpétré des actes criminels en province du Nord Kivu, particulièrement à territoire de Walikale et dans les sud-Lubero, et parmi lesquels des actes de viol, des tueries ou des exécutions sommaires, des pillages de ressources naturelles, des enlèvements, des kidnappings, des tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux civils. Nous pensons qu'il devrait être déféré devant la cour militaire opérationnelle pour répondre de ces crimes, étant donné qu'il y a un mandat qui était déjà émis à Sota par la justice militaire. Nous pensons qu'il ne va pas être hébergé comme c'est le cas aujourd'hui avec Gédéon Kyungu Mutanda.
Rappelons que Thabo Ntabiri dit Tcheka, chef de Nouma Defense of Congo, un groupe armé très actif dans le Walikale, s'est illustré par le viol massif de femmes dans ce territoire fin 2010. Il a été sous mandat d'arrêt délivré entre 2010 et 2011 par l'auditorat militaire. Mais qui est réellement Tcheka? Voici son portrait dressé par Gisèle Cage.
Thabo Ntabiri est originaire de Walikale, précisément de la communauté Nyanga. C'est en 2009, après avoir escroqué un homme d'affaires à Goma, qu'il a rejoint la rébellion de FDLR à Walikale, pris sous ses ailes par le commandant FDLR Sadiki, qu'il tuera plus tard. Lui et ses hommes apprennent à manier des armes. Avec le FDLR, ainsi que les éléments du lieutenant Emmanuel Sengiyumva, ils attaquent au moins 13 villages situés sur l'axe Kibou-Mpofi entre le 30 juillet et 2 août 2010. Lors de ces attaques, il atteindra le summum de la violence avec le viol massif de Mpofi et Luvungi. Selon le rapport des ONG de droits de l'homme, au moins 300 civils ont été victimes de ces viols. Par la même occasion, plus de 900 maisons ainsi que des boutiques sont pillées et des civils enlevés puis soumis à des travaux forcés. Après cela, l'auditorat militaire, près la cour militaire opérationnelle, lance un mandat d'arrêt provisoire contre Tcheka. Plusieurs griefs pèsent contre lui. Crimes contre l'humanité, pillage, terrorisme, mais Tcheka échappe aux mailles du filet à chaque fois qu'il est recherché par l'armée. Depuis 2012, avec la scission de son mouvement avec le départ de son adjoint Guidon, Tcheka se retrouve affaibli. Avec sa réduction, Tcheka devra rendre compte de ses actes, dont son implication dans l'assassinat en 2012 de deux officiers FARDC à Walikale, parmi lesquels le colonel Chuma. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, une dizaine de présumés bandits appelés Kuluna arrêtés ce jeudi dans la commune de Ngiringiri par la police nationale congolaise. Ces bandits sont partis du quartier voisin Kimbangu dans la commune de Kalamu pour s'aimer le trouble dans un deuil d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années. Selon l'oncle du défunt qui a requis l'anonymat, ces personnes, parmi lesquelles deux filles ont caillassé le corbillard et le cercueil peu avant la levée du corps pour l'enterrement. La même source demande aux autorités judiciaires d'appliquer la loi. Je vous propose d'écouter l'oncle du défunt au micro de Paul Matendo.
Il y a eu l'écurie des enfants de Yolo qui sont venus donc nous menacer, nous ont caillassé, même les corbières que nous avons prises a été endommagées, les pare-brises ont été détruites. C'était une bande de Kourouma. Nous avons essayé d'arrêter à peu près, je pense, 5 à 6 comme ça. Ils sont ici. Des filles qui étaient même dans cette écurie-là, dans ces écuries-là, qui est là, essayent d'enlever ses habits, sans pour les gêner. Et ce que nous voulons, c'est que l'État puisse prendre des mesures sanctionnaires, qu'il puisse appliquer les droits et rien que les droits. Parce que souvent, des gens comme ça, ce sont des bombes à retardement.
Au chapitre emploi, le gouvernement de la République recrute 1000 jeunes universitaires pour intégrer l'administration publique. Le coup d'envoi de ce recrutement est lancé ce jeudi à Kinshasa par le Premier ministre Bruno Tshibala. Ceci entre dans le programme Jeunes professionnels pour le rajeunissement de la fonction publique que gère actuellement le ministre d'État, ministre de la fonction publique Michel Bongongo. Selon lui, ce recrutement va se dérouler dans toutes les 26 provinces pour assurer la relève des fonctionnaires mis en retraite. Dans son intervention, le Premier ministre a expliqué comment les candidats sélectionnés devront intégrer l'administration après ce recrutement. Les propos de Bruno Tshibala sont recueillis par Askinzik Biataero.
À l'issue de 6 mois de formation, les lauréats seront nommés et affectés dans l'administration publique au grade d'attaché d'administration de première ou de deuxième classe. Après cette période et pendant leur intégration, les jeunes professionnels subiront beaucoup d'évaluations sommatives et qualitatives de performances sur base d'un contrat de performance qu'ils auront signé juste après leur admission sous statut. Le programme du gouvernement étant une continuité, je suis heureux ce jour de m'inscrire dans cette optique tout en saluant la détermination avec laquelle mes prédécesseurs ont travaillé sur cette question. Je voudrais attirer l'attention des jeunes universitaires concernés par ces processus en relevant que ceux d'entre eux qui auront le mérite d'être sélectionnés, les jeunes professionnels seront tenus au respect strict du code d'éthique et déontologie en milieu professionnel.
Autre titre dans ce journal, clôture mardi dernier au secrétariat exécutif de la CENI de la réception des candidatures au poste de gouverneur et vice-gouverneur dans 11 provinces de la RDC. Dans la province de la Tshopo, le collectif des femmes s'est mobilisé pour le choix des listes des candidats où la femme est représentée. Et combien de candidatures ont été déposées au bureau de la CENI? Quelles sont les motivations de la mobilisation des électeurs en faveur des femmes? Et quel est le profil du candidat gouverneur pour la province de la Tshopo? Dorcas Kankou nous en dit plus.
Le bureau de réception et de traitement de candidatures pour les élections de gouverneur et vice-gouverneur opérationnel depuis le 21 juillet a fermé ses portes 4 jours après. Emeli Haha, secrétaire exécutif de la CENI Tshopo, affirme que 2 femmes sont candidates à ces élections.
1 dépôt de candidature par 1 regroupement politique. Il y a ici 6 dépôts de candidature par les candidats indépendants. Donc pour cette compétition, on aura aussi la présence des femmes, une femme au poste du gouverneur et une autre femme au poste du vice-gouverneur.
Ce mardi, une délégation du collectif des femmes a remis au président de l'Assemblée provinciale une déclaration de cette structure, interpellant les élus du peuple afin qu'ils élisent seulement les listes sur lesquelles la femme est représentée. Charlie Andirou, leur représentante, explique.
C'est vrai que nous n'avons pas de députés femmes, mais on s'est dit que c'est une opportunité à saisir et que si réellement les députés sont légalistes, comme ils le disent, à théorie, qu'ils puissent les manifester en pratique.
Des personnes avisées estiment que les chances de réussite de femmes à ces élections sont très minimes. En cause, la sensibilité des députés par rapport au respect du genre, en plus le poids de la culture qui se méfie de la femme engagée dans la politique. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
2 candidatures ont été déposées au bureau de réception et de traitement des candidatures de la commission électorale pour l'élection du gouverneur du Kasaï central. Les candidats ont jusqu'au 30 juillet pour procéder à d'éventuels retraits, ajouts ou substitutions. Karine Damousso nous donne plus ces détails.
Martin Kabuya et Crispin Kankonde sont les 2 candidats qui ont postulé au poste de gouverneur du Kasaï central. Le premier se présente comme un candidat indépendant, mais c'est un député élu en 2011 sur la liste de l'UDPS à Dibaya. Son concurrent est également un député, un élu PPRD de Kananga. Martin Kabuya se présente avec comme colistière Ida Kamonji, qui est candidate vice-gouverneur. Il se présente comme indépendant. Crispin Kankondé forme un ticket avec André Chikaï. Les deux se présentent pour le compte de la majorité présidentielle. La commission électorale prévoit de publier la liste définitive des candidats le 12 août prochain. C'est le 26 août que doit avoir lieu l'élection du nouveau gouverneur du Kassai central qui doit succéder à Alex Kandé. La commission électorale a récemment annoncé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions. Au Kassai central, certaines organisations ont contesté la tenue de cette élection, expliquant que le gouverneur Kandé est encore en fonction. Des sources de l'Assemblée provinciale confirment qu'Alex Kandé n'a pas démissionné. Kananga, Karine Damousso, Radio Kapi.
Dans le Haut-Katanga, c'est un bras de fer entre l'Assemblée provinciale et Jean-Claude Kazembe, gouverneur de cette province. L'avocat conseil de Jean-Claude Kazembe annonce que son client ne va pas démissionner. Il demeure gouverneur du Haut-Katanga car il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Maître Richard Bondo a fait cette déclaration hier mercredi à la Radio Kapi Lubumbashi. Il rappelle que l'article 168 de la Constitution stipule que les décisions de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoire. Il s'impose aussi bien aux autorités qu'aux particuliers. D'après lui, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur qui est organisée par la CENI dans la province du Haut-Katanga est illégale. Maître Richard Bondo est joué au téléphone par Paul Munanga.
Le gouverneur Kazembe, il ne pourra pas démissionner. La démission n'est pas à l'ordre du jour. Pour démissionner, il faut qu'il y ait un problème. Quel est le grief? Parce qu'il a été lavé par la Cour constitutionnelle. Le gouvernement provincial n'est pas vacant. Kazembe est son gouverneur. Quand la Cour a déclaré la motion inconstitutionnelle, elle est nulle et de nul effet. Et le gouverneur est remis en selle dans son gouvernement, dans son fauteuil de gouverneur, chef du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La CNI ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal. C'est l'article 28 de la Constitution. Si elle obéit, nous allons l'attaquer en justice aussi. Et si jamais la CNI organisait les élections, malgré la saisine de juridiction, là, franchement, le peuple congolais retiendra qu'on n'est plus dans un état de droit, comme dit à l'article 1er de la Constitution.
Rendons-nous dans la province de Lomami et parlons de cet effondrement depuis près d'une semaine du pont sur la rivière Lubilanji qui inquiète tant les opérateurs économiques que les autorités locales. Cette interruption du trafic entre les provinces issues de l'ancien Katanga et celle de l'ancien Kassai oriental intervient alors que la SNCC connaît des réels problèmes. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami tire la sonnette d'alarme et annonce qu'une flambée des prix se fait déjà sentir. Le rapporteur du bureau de l'organe délibérant de la Lomami rappelle qu'il s'agit d'une route nationale et par conséquent, le gouvernement central devrait faire diligence et construire un pont adapté au trafic sur cette rivière. Le député provincial Dominique Mbouyi-Chikala est joint par Chris Mukande.
Ce pont a été construit depuis l'époque coloniale par le fait que la SNCC, la voie ferrée est déjà vétuste et qu'il y a des grèves à répétition. Les commerçants empruntent cette route nationale numéro 1 avec le ciment, avec le sucre, la farine de froment, les fer à béton. Quand ces véhicules viennent, ils payent la taxe de péage. Quand les produits sont déchargés au niveau des Monédites ou des Ngandaji, ils payent soit la taxe de consommation, soit la taxe d'expertise. C'est un manque à gagner. Nous demandons au gouvernement central, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités pour qu'on puisse reconstruire ce pont-là et l'adapter aux enjeux actuels et aux besoins, mettre un pont avec bascule et renforcer les contrôles de tonnage sur ce pont-là. De telle sorte que la province qui a été attaquée par la guerre des terroristes et qui a perdu de tous ses greniers agricoles qui étaient dans la province de Lomami, et si aujourd'hui nous n'avons pas un pont, je pense que la crise va s'accentuer.
Et puis le pont Libala dans le nord Ubangi, à 85 km de Businga dans le secteur de Karawa, sur la route nationale 4, s'est également effondré. Conséquence, le trafic entre le nord Ubangi et les provinces de la Mongala et du sud Ubangi est coupé. Les autorités locales, impuissantes devant cette catastrophe, lancent un appel au gouvernement central pour sa réhabilitation. Dominique Olombi.
Construit depuis l'époque coloniale, les ponts sur la rivière Libala étaient rongés depuis plusieurs années par des érosions. Ils ne résistaient que grâce à quelques travaux d'entretien de la population. Les pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière dans les secteurs de Karawa lui ont donné sa dernière grâce. Son effondrement coupe le trafic sur l'axe routier qui relie les provinces du sud Ubangi, du nord Ubangi et de la Mongala. Sa réhabilitation nécessite des grands travaux avec de grands moyens. Voilà pourquoi le vice-gouverneur des provinces du nord Ubangi, Jean Bosco Bossomi, demande l'intervention urgente du gouvernement central afin que l'office des routes le réhabilite. En attendant, l'arrêt du trafic sur les tronçons routiers Karawa-Businga affecte sérieusement l'économie du nord Ubangi. Les marchés de Karawa, où les paysans écoulent leur production de café, d'arachide, de maïs et de niébé, et qui attirent les commerçants en provenance des Gemena, des Lissala et des Bumba, n'est plus accessible. Ces paysans ne savent maintenant que faire pour vendre leurs produits. Mandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Ouvrons cette page internationale par le Sénégal. La tension autour des législatives de dimanche prochain n'est pas prête de retomber. En effet, les règles du vote viennent d'être modifiées sur proposition du président Macky Sall. L'État a des problèmes d'organisation, de fabrication notamment des nouvelles cartes d'identité qui sont également les cartes des électeurs. La loi qui indique que seuls ces nouveaux documents CDAO permet de voter vient donc d'être contournée par le Conseil constitutionnel. En Tunisie, les députés ont voté ce jeudi une loi contre les violences faites aux femmes, un texte très attendu par les féministes qui renforce la protection des victimes, une étape importante pour l'avancée du droit des femmes saluée par le peuple tunisien. Aujourd'hui, 47% des Tunisiennes disent avoir été victimes de violences au moins une fois dans leur vie. La nouvelle loi pourrait faire baisser ce taux. Enfin, les forces de sécurité algériennes ont empêché un plan terroriste dont le cerveau a des liens avec Hamedi Coulibaly, auteur d'attaques meurtrières en France en 2015, a rapporté jeudi le journal Le Quotidien Al-Kabar. Citant des sources de sécurité bien placées, le journal affirme que les premiers résultats de l'enquête montrent les liens forts entre le chef de la cellule terroriste et Hamedi Coulibaly, qui avait tué une policière municipale dans la rue, puis 4 otages dans un magasin en janvier 2015, près de Paris, avant d'être abattu. Une source sécuritaire algérienne qui a requis l'anonymat a confirmé les démantèlements d'une cellule terroriste présumée liée à l'État islamique et l'arrestation de 4 personnes, dont une femme et un enfant, sans toutefois donner des précisions sur leur identité. Voici à présent la seconde partie de ce journal et nous retournons à Mbandaka pour notre dossier. Arrestation depuis la semaine dernière du chef de division provinciale de l'urbanisme en cause des abus dans l'octroi des permis de construire. Autre retombée de la mission d'évaluation du vice-ministre de l'urbanisme et habitat au chef-lieu de l'Équateur, c'est la menace de destruction ou récupération de toutes les constructions anarchiques dont les terrains de l'État seront détruites, soit récupérées pour le compte du trésor public. C'est la toile de fond du dossier que présente Paul Richard Malingala.
À l'issue de sa mission d'une semaine à Mbandaka, le vice-ministre de l'urbanisme et habitat, Willy Bolio, dit avoir relevé plusieurs irrégularités. D'abord dans le secteur de l'urbanisme, ce sont les morcellements anarchiques des terrains adjacents les maisons de l'État. Certaines de ces constructions ont tendance à dénaturer le plan urbanistique qui faisait jadis de Mbandaka une coquette ville. Deux Mbandakais réagissent différemment à ces propos.
La plupart de ces maisons, ce sont des maisons modernes. Comme l'État dormait, il vient de se réveiller. Moi, je vois, par rapport aux conditions de vie actuelles, ils ne peuvent pas détruire ces maisons. Ils peuvent seulement aller se conformer à l'État.
Ben, pour moi, je trouve que c'est pas bon, tout simplement parce que, imaginons, en cas d'incendie, par exemple, nous trouvons que toutes ces constructions ne suivent pas les normes. Et je ne pense pas que l'État peut accepter de telles constructions.
À la base de ces constructions dites anarchiques, il y a notamment l'octroi des permis de construire au mépris de la loi, ce qui a valu l'interpellation immédiate du chef de division de l'urbanisme avec ses complices. Toutefois, le vice-ministre a promis l'annulation de tous ces actes, ainsi que la destruction ou la récupération des dites constructions, quels qu'en soient les propriétaires. Parmi les bénéficiaires ou propriétaires se trouvent des hautes autorités de la province, mais aussi des hommes d'affaires. Certains ont érigé des habitations, d'autres des édifices d'utilité publique tels qu'hôtels, écoles, hôpitaux, etc. Quant à ceux qui ont détourné les fonds destinés au projet 300 maisons et cité des gouverneurs des projets morts dans l'œuf, a renchéri le vice-ministre, ils en répondront devant la justice.
Ces gens-là ont bouffé l'argent de l'État pendant cette époque-là et on va les poursuivre. L'infraction de détournement est imprescriptible. Ils vont vomir cet argent et les 300 maisons, on va les avoir. Les 94 hectares prévus, il y a des généraux, des amiraux, des qui ont vendu aux tierces personnes. Et je crois, je ferai mon rapport, il faut que l'État vive. Il y a le problème des 6 maisons. Ce sont les maisons de l'habitat. Les 6 maisons doivent revenir au ministère de l'Habitat.
Et la société civile provinciale se réjouit de cette décision du pouvoir central, estimant ainsi que l'État s'est enfin réveillé de son long sommeil. Fabien Mungunza, coordonnateur de la SOCIPEC.
Nous sommes très contents de la réaction du vice-ministre parce qu'elle va dans le sens de ce que nous avons dénoncé comme étant la spoliation des espaces tant publics et privés de l'État par des agents véreux couverts par des arrêtés du gouverneur de province. Donc nous sommes totalement d'accord. Et si le ministre va jusqu'au bout de son idée, je crois que ce sera une très bonne chose pour l'avenir de ce pays et en particulier de la province de l'Équateur.
Bandaka, Paul Chamalenge, la radio Okapi.
L'invité.
L'invité de ce soir est Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix et les droits de l'homme, CEPADO. Il revient sur la reddition du chef rebelle Thabo Taberi Dicheka, poursuivi pour crime contre l'humanité. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy. Suivez.
Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la reddition du rebelle Cheka poursuivi pour crime contre l'humanité?
Nous nous sommes félicités de sa reddition, mais nous voudrions rappeler que Thabo Taberi Cheka est visé par un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Et à cette fin, nous estimons qu'en dépit de sa reddition volontaire, il doit répondre de ses actes.
Et puisqu'il vient de se rendre, il est actuellement détenu à la base de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous recommandez concrètement pour qu'il réponde de ses actes?
Nous savons qu'il doit répondre de ses actes en justice. Il a perpétré des actes criminels en province du Nord Kivu, particulièrement à territoire de Walikale et dans le sud Lubero, et parmi lesquels des actes de viol, de tuerie, ou des exécutions sommaires, des pillages de ressources naturelles, des enlèvements, des kidnappings, des tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux civils. Nous pensons qu'il doit répondre devant la justice congolaise. Et il y a une fenêtre d'opportunité au Nord Kivu où une juridiction militaire, la Cour militaire opérationnelle, est implantée. Nous pensons que il devrait être déféré devant la Cour militaire opérationnelle pour répondre de ses crimes. Et étant donné qu'il y a un mandat qui était déjà émis à son temps par la justice militaire, nous pensons qu'il ne va pas être hébergé comme c'est le cas aujourd'hui avec Gedeon Kyungu Mutanda.
À votre avis, qu'est-ce qui motive sa reddition volontaire? Est-ce que c'est une distraction ou il était vraiment contraint de se rendre?
Nous ne savons pas à ce stade ce qui motive sa reddition parce que par le passé, il s'était rendu et par la suite, il s'était soustrait et il est rentré au maquis. Et donc, nous voudrions que cette fois-ci qu'il s'est rendu, il doit être correctement surveillé, il doit être mis à la disposition des FARDC et par la suite à la disposition de la justice pour qu'il pas avoir le temps de se soustraire pour qu'il réponde de ses actes parce qu'on ignore si sa reddition, c'est l'effet de la pression militaire des FARDC de la MONUSCO contre les groupes armés dans la province ou si c'est une décision ou si encore c'est une distraction comme il l'a fait par le passé.
Comme vous le savez, Kyungu Gedeon dans le Katanga était aussi poursuivi pour crime contre l'humanité. Il s'était également rendu, mais aujourd'hui il bénéficie d'une protection et même d'un hébergement de l'État congolais. Craignez-vous que Cheka aussi bénéficie plus de protection que de poursuites judiciaires?
Ce qui fâche effectivement, c'est de voir comment sont dorlotés certains criminels dans ces pays. Le cas de Gedeon Kyungu Mutanda, c'est un mauvais exemple dans la lutte contre l'impunité. Et nous ne voudrions pas que Cheka puisse bénéficier de tels traitements. Nous estimons que Thabo Taberi Cheka ainsi que Gedeon Kyungu Mutanda doivent être devant leur juge naturel pour répondre de leurs crimes. Cela devait servir de leçon pour les autres criminels qui courent et qui continuent à commettre à quel droit. S'il est hébergé, accueilli, bon enfant et dorloté, nous pensons qu'on n'aura pas de leçons dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Et surtout à ce jour où notre pays aspire à gérer la Commission des Nations Unies des droits de l'homme au niveau de l'ONU, nous estimons que nous devrions prêcher par l'exemple, et c'est pourquoi nous estimons que GDO devra être un cataste.
Et pensez-vous qu'en dehors de Cheka et Gédéon, il y a d'autres criminels poursuivis pour crimes contre l'humanité et autres qui devraient aussi répondre devant leurs juges?
Bien sûr, il y a plusieurs criminels. Vous savez que, parlant rien que de la province du Nord Kivu, il y a beaucoup de seigneurs de guerre qui continuent à endeuiller les populations dans plusieurs territoires de cette province et qui courent impunément. Vous savez que depuis tout le temps, nous avons toujours souhaité que Djamil Mukulu, le chef de l'ADF, qui est aujourd'hui hébergé en Ouganda, soit extradé vers la RDC pour qu'il réponde de ses actes, de ses séries de massacres contre les civils à Beni. Cela n'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de criminels FDLR, beaucoup de criminels Maïmaï. Tant qu'ils courent, ils constituent un danger. Et même s'ils se rendent pour ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, nous pensons que l'idéal, c'est les amener à répondre en justice, qu'ils doivent répondre à leurs actes, quand bien même ils puissent se rendre.
Maître Omar Kavota, je vous remercie.
Merci.
Okapi Sport.
Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Nana Mbala pour l'actualité sportive. Bonsoir Nana.
Bonsoir Jocelyne Saoupondé, bonsoir mes sportifs. Nous commençons par la Coupe du Congo de handball qui se déroule ici dans la ville province de Kinshasa. Et c'est là dans deux stades, stade Tata Raphaël et stade de Martyr. Pour ce qui concerne les résultats enregistrés aujourd'hui, sachez que chez les dames, DSMP a perdu face à Eva Bouka, 22-36. Et chez les messieurs, Force Terrestre contre Police, 13-36. Rouet contre Héritage, 13-29. Et là, nous étions au stade Tata Raphaël, au stade de Martyr. Kinsport a eu raison de Lodja, 41-30. Et GSK contre GSK, 22-46. Et le troisième match de messieurs, c'était entre Betona Beto et JSL, 16-26. Ainsi donc, les demi-finales se joueront demain vendredi au stade de Tata Raphaël. Nous aurons chez les messieurs JSK contre Héritage et Police contre JSL. Et chez les dames, nous aurons un vainqueur contre Eva Bouka et Mikishi contre Héritage. La compétition, elle, prendra fin ce samedi. Et en ce qui concerne le volleyball, sachez qu'on a joué également aujourd'hui pour les comptes de la 14e journée au terrain annexe du stade de Martyr. C'était deux matchs au programme. Chez les dames, Puget cueille raison de Ouragan, 3-7-0, 25-20, 25-22, 27-25. Chez les messieurs, Inter a perdu face à Force Terrestre, 0-7-3, 19-25, 18-25, 21-25. Et en ce qui concerne les Jeux de la Francophonie à Abidjan 2017, la RDC est qualifiée pour les demi-finales en football. Les poulains d'Eric Tchibassou joueront le Marocain demain vendredi sous le coup de 16h, heure de Kinshasa. Ce sera au stade de Félix Houphouët-Boigny. Un match que l'entraîneur compte aborder avec beaucoup de détermination. C'est ce qu'il nous dit au téléphone de Enoch Matondo. Nous écoutons donc Eric Tchibassou.
On a regroupé des jeunes qui depuis deux semaines, donc la majeure partie, c'était les joueurs qui allaient jouer à la Côte Safa, mais c'était en décembre. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. Donc nous avons essayé vraiment de travailler dans ce sens-là pour essayer d'aborder au mieux cette compétition. Parce qu'on rappelle, nous, les U20, nous sommes là simplement pour aguerrir les joueurs pour l'équipe première. On est encore dans la formation. Donc là, c'est bien de pouvoir amener des résultats aussi. Mais là, le but premier pour nous, c'est de former ces joueurs et de les amener au plus haut niveau. On va jouer contre le Maroc. Ça va être un match de plus pour ces jeunes, pour encore les permettre de travailler, de s'aguerrir et dans quelques années faire les beaux jours de Léopard A.
Sachez que l'autre demi-finale opposera la Côte d'Ivoire au Mali et la finale, elle, est prévue pour dimanche prochain.
Merci Nana Mbala pour toutes ces nouvelles sportives. Et voici à présent le cours de change. Un dollar américain s'achète aujourd'hui à 1601 francs congolais et se vend à 1668 francs congolais. Le rappel de titre de cette édition, réédition du chef rebelle Tcheka, la société civile du Nord Kivu s'en félicite et demande qu'il soit déféré devant la justice. Élection de gouverneur dans les 11 provinces. Le dépôt des candidatures a pris fin. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Kazembe refuse de démissionner et dit ne pas reconnaître le scrutin qu'organise la CENI. Vous avez suivi notre dossier en seconde partie de ce journal. L'invité de ce soir était Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix et les droits de l'homme, CEPADO. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.